Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs de la Voix de l'Amérique. Bienvenue à Votre Santé, Votre Avenir, le programme hebdomadaire santé de VOA Afrique présenté par Nalit Salani. On entend souvent dire que pratiquer une activité sportive régulière est bon pour la santé. Quels sont réellement les effets bénéfiques de l'activité physique sur la santé? C'est autour de cette question que s'articule Votre Santé, Votre Avenir de cette semaine. Pour y répondre, nous nous entretiendrons avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France.
Le fait de ne pas bouger favorise un certain nombre de maladies. Quelqu'un qui ne bouge pas, ça devient plus compliqué au niveau de l'organisme, du cœur. Il est exposé à beaucoup plus de risques de se choper une maladie quelconque que quelqu'un qui bouge régulièrement.
Monsieur Bengali Daouda Boukar est professeur de sport à Limoges en France. Après cette interview, vous suivrez Carnet de santé avec Linor Moudou dans la deuxième partie de l'émission. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme promis, voici notre interview avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France. Notre interview va s'articuler sur les bienfaits de l'activité sportive. Bonjour M. Bengali.
Bonjour.
Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler des bienfaits du sport sur la santé. Quels sont les bénéfices du sport pour l'organisme humain?
Les bénéfices sont énormes. D'abord, en termes de santé, plus on fait une activité, mieux le corps se porte au niveau du renforcement musculaire, au niveau du maintien musculaire, au niveau des os, au niveau cardiaque, il y a plein de bénéfices.
Le sport procure-t-il des bienfaits sur le plan mental?
Au niveau mental aussi, on a pas mal de récupération, puisque plus on fait du sport, je crois mieux, le cerveau aussi travaille très bien. Et puis, il y a aussi un côté bénéfique du sport, c'est au niveau de la socialisation. Ça rapproche les gens.
Merci beaucoup. Et pour le maintien de l'organisme, quelles sont les différentes sortes de sports qui sont recommandées?
Ça dépend de l'organisme des uns et des autres. Il y a des gens qui sont destinés peut-être pour faire du sport de force. Il y en a qui font du sport d'équilibre. Il y en a qui font du sport d'endurance.
Est-ce que le sport, c'est toujours de la compétition?
D'abord, quand on parle sport, on parle compétition. Mais pour le commun de mortel, c'est le fait d'aller courir, le fait d'aller sauter un tout petit peu, le fait de faire d'autres activités. Tout cela concourt au maintien de la santé, concourt à l'amélioration de la santé. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on fait de moins en moins aujourd'hui en raison de la sédentarité maintenant que les gens ont acquise dans les grands centres.
Dans les villages et même dans les villes, il y a beaucoup de gens qui font des travaux manuels de façon quotidienne. Est-ce que ces personnes doivent encore pratiquer du sport de façon régulière?
Non, ces gens-là, ils font déjà une activité. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à leur faire comprendre que, bon, en dehors du travail qu'ils font, il y a autre chose qui concourt à leur santé. Parce que les gens qui sont dans les campagnes, déjà les femmes, le fait d'aller chercher de l'eau plus loin, elles marchent longtemps. Le fait de transporter des fagots, c'est aussi une activité. Le fait de cultiver, de labourer son champ, c'est aussi une activité. Donc tout ça là, ce sont des activités. Mais un certain nombre de parties du corps ont besoin d'autres choses que ce qu'on fait tout le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'évolution, on va beaucoup plus aider ces gens-là à comprendre le fonctionnement de leur propre corps, comment aménager son corps, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le corps résiste en termes d'alimentation, mais en termes aussi d'activité. Il y a des activités qui sont totalement indépendantes de ce qu'on fait quotidiennement.
Quelles peuvent être ces différentes activités?
Le fait de marcher, le fait d'aller se baigner dans un fleuve, de nager un peu, le fait de faire de l'équitation ou le fait de faire un peu de vélo, tout ça concourt au renforcement de la santé et de la capacité de l'organisme.
Est-ce que le sport ou l'activité physique peut prolonger l'espérance de vie d'une personne?
Vous savez que ça n'a peut-être pas d'incident, mais il y a des gens qui ne font pas de sport et qui vivent longtemps, et il y a des gens qui font du sport et qui meurent sur le terrain. Donc tout cela est une fonction vraiment de l'organisme des uns et des autres et de la gestion. Si on connaît bien son organisme, si on gère bien son organisme, peut-être que l'espérance de vie se prolongerait. Il y a des gens qui ne font pas de sport du tout, mais qui vivent le plus longtemps possible.
Comment peut-on expliquer le fait que certaines personnes pratiquent du sport, meurent vite, alors que d'autres ne pratiquent pas du sport, mais vivent longtemps?
C'est parce qu'ils ont un organisme qui s'adapte plus facilement à toutes les activités et qui n'a pas besoin d'être forcément aidé par autre chose. Mais il y a ceux qui font du sport aussi. Entre ceux-là, c'est le contrôle quotidien, hein, c'est le contrôle sans arrêt. Parce que s'ils ne le font pas, évidemment, tout d'un coup, ils se rendront. Parce qu'on a vu des sportifs sur le terrain s'effondrer. Parce qu'on n'a jamais, en amont, fait attention à leur organisme. Donc, le fait de faire du sport, dans un sens, peut-être que ça prolongerait la vie, mais dans l'autre, il faut faire attention.
Donc, suivant les cas, le sport peut ou ne pas jouer sur l'espérance de vie des gens?
Dans le sens où ça prolongerait la vie, je dirais simplement pour nos parents qui sont dans les campagnes. Vous savez, il y a longtemps, les gens ils mouraient simplement parce que on dit qu'ils ont la maladie ou ils avaient du mal à uriner. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est de la prostate et ça, chez tous les hommes, ça existe. Maintenant, si on sait que ça existe et que voilà, par le fait de faire des activités, évidemment, on court moins de risques à faire en sorte que la prostate, là, se développe très vite. Donc, il y a des choses qu'il faut maintenant arriver à faire comprendre aux gens qui sont aussi dans la campagne que, voilà, il y a des choses qui peuvent améliorer leur vie et prolonger la vie.
Les personnes qui souffrent, par exemple, des maladies cardiaques, est-ce qu'elles peuvent s'adonner sans danger à une activité physique régulière?
Non. Il y a toujours un danger. Mais les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, d'abord, elles doivent être sous contrôle médical. Et c'est à partir de médecins qui diront, bon, voilà, tel sport, c'est mieux de le faire, ça comporte moins de risques, mais ça améliore également la santé. Mais on ne fait pas n'importe quel sport. Quelqu'un qui a un problème cardiaque, il ne va pas se mettre tout de suite à faire un sport où il faut qu'il aille très vite, et il faut qu'il mette à rude épreuve son cœur. C'est une question d'adaptation. Ça, c'est les médecins qui le contrôlent, ça.
Les personnes âgées, quelles sont les activités sportives ou les activités physiques qui peuvent leur être recommandées?
Beaucoup plus de marches. Les personnes âgées, aujourd'hui, avec l'urbanisme, maintenant les gens marchent peu. Et plus on grandit, plus on est âgé, plus on prend un peu aussi du poids. Et si on ne fait pas d'activité pour éliminer tout ça, si on ne fait pas attention à ce qu'on mange, si on ne fait pas attention à son sommeil, tout ça, évidemment, c'est assez compliqué. Mais je crois que tout médecin conseillera à l'avance, il faut marcher.
En rapport avec la marche, on a un auditeur qui s'appelle Daniel Lass, il est de la RDC. Il pose la question suivante. Si j'évite l'obésité et que je marche une distance de 12 km 3 fois par semaine, est-ce que cela peut être la solution ou cet exercice pourrait encore avoir de répercussions sur ma santé?
Déjà, marcher 3 fois par semaine, c'est déjà très bien. Maintenant, ce n'est pas seulement marcher qui suffit. Il y a marcher, mais il y a également la régulation de ce qu'on mange. Parce que ça ne sert à rien si on doit marcher 12 km. Et puis après, une fois au repos, on se goinfre et puis on mange des McDo. Donc c'est une question de surveillance de son alimentation et de l'activité. On fait l'activité parce qu'on veut perdre des kilos, mais si une fois qu'on a fini l'activité, on doit aller se charger, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut lier l'alimentation avec l'activité qu'on fait.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. On a un autre auditeur, Alphonse Mbouaki, toujours de la RDC, qui veut savoir si les exercices corporels peuvent éloigner la vieillesse précoce.
Ah, la vieillesse précoce. Oh, tout le monde a peur de vieillir.
Eh oui.
Mais bon, déjà, le fait d'être régulièrement en activité, c'est un plus. Hein. On est à l'abri de pas mal de maladies, on est à l'abri de pas mal de maux de ceci, de maux de cela. Quelqu'un qui fait régulièrement d'activité, il dort bien et puis en plus, il mange bien. S'il n'a pas de maladie, s'il n'a pas de problème de santé, évidemment, sauf accident de circulation. Autrement dit, il n'y a pas de raison que la vie ne se prolonge pas.
Et les enfants peuvent-ils aussi faire du sport ou doivent-ils faire aussi du sport?
Les enfants, c'est d'abord le jeu. Les enfants jouent. C'est beaucoup plus sous forme ludique qu'il faut intéresser les gens à toutes les activités. Il faut qu'ils touchent un peu à tout. Ils sortent, ils courent. Au niveau des enfants, on n'est pas dans la recherche de la compétition. On est dans la recherche de jeu. Ça permet un meilleur développement. Et puis ensuite, le fait de jouer avec les uns et les autres, ça leur permet d'avoir une certaine autonomie, une certaine personnalité. C'est bon si on peut les amener à le faire régulièrement. Il ne faut pas non plus exagérer. Ça dépend de leur âge. Ça dépend de pas mal de choses, mais on fait attention. Mais déjà, à l'école, ils doivent le faire, le sport.
Pour un sport de maintien, juste pour maintenir l'organisme, quelle est la meilleure activité physique? Est-ce que c'est celle que l'on peut pratiquer individuellement ou celle que l'on pratique collectivement ou en groupe?
Bon, il y a des gens qui se mettent en groupe parce que ça les motive, et tant mieux si le fait de se mettre en groupe, c'est motivant, ça leur permet de faire. Mais il y a aussi des gens qui, bon, aujourd'hui, j'ai pas un partenaire pour aller courir, mais je vais tout seul, je vais pas m'arrêter, c'est pas parce que j'ai pas de partenaire que je cours plus, mais je me lève et puis je vais courir, je vais marcher, voilà. Donc, dans les deux cas, c'est toujours bénéfique, hein.
Pour terminer notre interview, que peut-on faire pour inspirer les personnes qui ont du mal à bouger ou qui hésitent à faire de l'activité physique?
Malheureusement, mais il faut leur faire peur un peu. Est-ce que le fait de ne rien faire, il faut arriver à les convaincre du bienfait du sport. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut arriver à leur faire comprendre que le fait de ne pas bouger favorise un certain nombre de maladies. Quelqu'un qui ne bouge pas, qui mange simplement, qui prend du poids, s'il ne bouge pas, évidemment, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué au niveau de l'organisme, ça devient plus compliqué au niveau du cœur. Donc, il est exposé. Quelqu'un qui ne fait pas d'activité a beaucoup plus de risques de se choper une maladie quelconque que quelqu'un qui bouge régulièrement.
Merci beaucoup, Monsieur Bengali, d'avoir répondu à nos questions.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
C'était notre entretien avec Monsieur Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges, en France.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Voici le moment de suivre Carnet de Santé avec Linor Moubou.
Cette semaine, dans Carnet de Santé, les épidémies de zoonose suscitent l'inquiétude des experts. Et les autorités sanitaires au Ghana font face à la première flambée de Marburg. Ensuite, la viande d'escargot serait à l'origine de certaines épidémies en Afrique. Enfin, quelques astuces du chef cuisinier Mitchell afin de consommer votre viande en toute sécurité. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré la variole du singe une urgence de santé publique de portée internationale. Cette classification est utilisée dans des situations graves, soudaines, inhabituelles ou inattendues, selon l'OMS. C'est seulement la 7e fois que l'OMS a recours à ce niveau d'alerte. La maladie a frappé plus de 16 000 personnes dans 74 pays. Pendant ce temps, le Ghana a confirmé ses premiers cas du virus mortel de Marburg. Le Marburg et la variole du singe font partie des maladies zoonotiques, également appelées zoonoses, dues à des germes qui se propagent entre les animaux et les humains. Les autorités sanitaires ghanéennes affirment avoir renforcé la surveillance et d'autres mesures pour empêcher la propagation de la maladie à virus de Marburg dans le pays.
Le Ghana a signalé deux cas de virus de Marburg dans la région sud d'Ashanti. Il s'agit du premier foyer de la maladie dans le pays et la deuxième fois en Afrique de l'Ouest. Selon les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, le virus de Marburg, hautement infectieux, est de la même famille que le virus Ebola. Il affecte plusieurs organes du corps et peut entraîner des hémorragies ou des saignements.
Marburg est relativement rare, mais ils ont les mêmes symptômes de fièvre, de douleurs corporelles, de saignements, et la mortalité dans Marburg est beaucoup plus élevée. Elle peut atteindre 90%, alors qu'Ebola est d'environ 50%.
La maladie du virus de Marburg peut se transmettre à l'homme à partir des chauves-souris et se transmet par contact direct avec le sang, les sécrétions ou d'autres fluides corporels de personnes infectées, ainsi que par des surfaces et des matériaux contaminés tels que la literie et les vêtements. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Marburg peut être mortel à 50% en moyenne. Toutefois, les taux de létalité ont varié entre 24% et 88% lors des épidémies précédentes. Les autorités sanitaires du Ghana affirment avoir mis en œuvre des mesures pour empêcher la propagation du virus, notamment la recherche des contacts et des mesures strictes de contrôle des infections.
Au moins, nous avons un système qui a pu le détecter rapidement. Les principales urgences sont de fournir des équipements aux agents de santé et aux autres travailleurs afin de s'assurer qu'ils disposent de la protection nécessaire pour gérer les cas éventuels. Nous alertons également tous les travailleurs de la santé pour qu'ils soient aux aguets et nous faisons de la prévention primaire pour nous assurer qu'ils ne sont pas exposés si un cas se présente et surtout, nous sensibilisons leur communauté sur la présentation du Marbourg afin qu'ils puissent identifier, signaler et éviter tout contact avec ces personnes.
Selon l'OMS, les précédentes flambées et les cas sporadiques de maladies à virus de Marbourg en Afrique ont été signalés en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo, au Kenya et en Ouganda. L'Angola a connu la flambée la plus meurtrière avec plus de 200 décès en 2005. Il n'existe aucun traitement ni vaccin contre la maladie du virus de Marbourg.
Le professeur Jimmy Whitworth est professeur en santé publique internationale à la London School of Hygiene et Tropical Medicine. Il nous en dit plus sur les maladies zoonotiques.
Au Ghana, je pense que les autorités sanitaires font du bon travail. Ils ont vite identifié les deux cas. Ils ont informé les autorités compétentes à ce sujet. Ils cherchent d'autres cas. Cela a permis d'identifier les contacts et ils les ont isolés. Les pays environnants sont également en état d'alerte élevé. Mais pour le moment, cela semble être contenu. Nous pensons que si vous êtes infecté par quelque chose comme Marburg ou Ebola, vous développez une immunité. Ce n'est probablement pas une immunité absolue. Elle va s'estomper au bout d'un certain temps et si vous obtenez une nouvelle variante, vous risquez de l'avoir à nouveau. C'est un peu comme ce que nous avons vu avec le coronavirus et qui, encore une fois, est venu d'abord des animaux, puis s'est propagé parmi les humains. Au fur et à mesure que cela a évolué, l'immunité que nous développons, soit à partir d'une infection naturelle, soit à partir de la vaccination, est moins efficace. Il diminue au fil du temps. Vous bénéficiez donc d'une certaine protection, mais cela ne dure pas éternellement. L'épidémie actuelle de variole du singe est sans précédent. La variole du singe est une maladie dont le foyer naturel se trouve en Afrique occidentale et centrale, où il se trouve dans un réservoir. Les petits rongeurs, les écureuils, etc. Et les gens se sont infectés occasionnellement. Dans la plupart de ces cas, c'est quelqu'un qui a voyagé pendant qu'il était infecté. Ces cas sont généralement rapidement identifiés et se propagent rarement. Mais celui-ci s'est vraiment propagé très vite. La chose la plus probable ici est qu'elle provenait encore de quelqu'un qui était infecté depuis l'Afrique, mais elle est entrée dans un réseau très restreint et a pu se propager très rapidement. Pour autant que nous sachions, toute personne exposée à la variole de singe par contact étroit peut l'attraper. Donc, nous sommes tous potentiellement à risque. Les maladies zoonotiques sont vraiment importantes et cela nous rappelle en quelque sorte que nous, en tant qu'humains, nous sommes des mammifères et nous faisons partie du monde naturel et nous nous engageons avec le monde naturel. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous constatons cette augmentation des maladies zoonotiques est l'empiètement sur les zones où vivent les animaux sauvages. C'est la nécessité pour nous de réaliser l'importance de ce qu'on appelle une seule santé. Et c'est là que nous ne pensons pas seulement qu'à l'humain, mais nous parlons de notre santé et de celle des autres animaux en même temps et réalisons notre place dans le monde naturel et comprenons que les mesures de santé publique que nous prenons pour protéger la population humaine doivent également tenir compte du monde naturel.
Une épidémie de leptospirose a surgi en Tanzanie. La leptospirose est une maladie bactérienne présente dans le monde entier et qui se propage par les rongeurs, selon les experts. La maladie a infecté plus de 20 personnes dans la région du sud du lundi, faisant au moins 3 morts. Un rapport de l'OMS conclut que l'Afrique a connu une augmentation de 63% de nombre d'épidémies zoonotiques au cours des 10 dernières années. Le docteur Elisha Osati est expert en médecine interne à l'hôpital national Muhimbili de Dar es Salaam en Tanzanie. Il explique.
Après l'épidémie, le ministre de la Santé a envoyé une équipe sur place. Ils ont découvert qu'environ 20 personnes ont été infectées et 3 sont décédées. Certaines personnes ont été hospitalisées. À l'époque, la maladie n'était pas connue. Les malades se présentaient avec des maux de tête sévères et de la fièvre. Certains saignaient du nez et d'autres convulsaient même et tremblaient comme des personnes atteintes de méningite. Donc tout de suite, le gouvernement a envoyé une équipe qui a prélevé différents échantillons de sang. L'équipe de l'OMS et du CDC sont également intervenues et en fait, il s'est avéré qu'il s'agissait de la maladie que nous connaissons, appelée leptospirose. Mais elle est différente de Marburg ou d'Ebola, qui sont des maladies virales hémorragiques, et c'est un peu différent. La leptospirose est une maladie bactérienne. Lorsque la bactérie pénètre dans votre corps, elle peut atteindre les poumons et provoquer des saignements, mais elle peut également attaquer le foie. Le patient peut également présenter une jaunisse, la coloration jaune des yeux. Elle affecte aussi les reins, puis le cerveau et peut provoquer une méningite. Donc encore une fois, c'est un peu différent de Marburg et de l'Ebola. C'est plutôt similaire à la dengue. Lorsque l'équipe s'est rendue sur les lieux, une vingtaine de personnes étaient infectées et 3 sont décédées. Actuellement, tous ont été guéris et renvoyés chez eux à l'exception de 2 personnes qui sont encore à l'hôpital. Mais ils vont bien. Vous savez donc qu'après avoir réalisé qu'il s'agissait de leptospirose, nous avons commencé le traitement immédiatement car seuls certains antibiotiques peuvent guérir la maladie. La situation n'est donc pas mauvaise. Elle a été contenue dans la zone et la surveillance se poursuit également autour de cette partie.
L'OMS affirme que les maladies zoonotiques, y compris la variole du singe et le virus de Marburg, peuvent être transmises des animaux aux humains, notamment à travers la consommation de viande de brousse. Qu'en pensez-vous et comment résoudre le problème lorsque la consommation de viande de brousse fait partie de la culture? Voici quelques réactions sur Facebook. Mamadou Falilou Sek écrit « Les habitudes de consommation sont très diversifiées en Afrique et cela pourrait expliquer la récurrence de certaines épidémies dans certaines régions et non dans d'autres. Au Sénégal, par exemple, la consommation de la viande de brousse est très rare en milieu urbain et les épidémies comme Ebola et le Covid-19 ont accentué la méfiance des populations par rapport à la viande de brousse. » Dans un nouveau rapport publié dans la revue Emerging Infectious Diseases, les chercheurs suggèrent que la viande d'escargot est probablement à l'origine de certaines épidémies en Afrique qui pourraient passer inaperçues. Les chercheurs ont évalué la prévalence d'agents pathogènes potentiels d'origine alimentaire chez les escargots terrestres africains consommés à Boya, au Cameroun. Ils ont détecté au moins un agent pathogène dans chaque échantillon testé et la plupart contenaient plusieurs agents pathogènes, dont Listeria et Salmonella. Les escargots terrestres africains sont une source de nourriture pour de nombreuses personnes sur le continent et les escargots sont consommés dans le monde entier. Les scientifiques ont déclaré que les résultats montrent des risques pour la santé publique liés à la manipulation et à la consommation d'escargots comestibles crus ou insuffisamment cuits collectés dans des habitats naturels au Cameroun. Selon les observateurs, de nombreux types de bactéries peuvent se développer sur les produits d'origine animale et les produits de la mer. Il est donc important de les manipuler en toute sécurité et de les faire cuire à la bonne température. Mitchell Mullen-Kazandian est chef cuisinier à Syracuse, New York. Il partage quelques conseils.
La première chose que vous devez faire pour vous assurer que votre viande est bonne, c'est de bien regarder et vérifier simplement qu'elle a la bonne couleur. Le poulet doit être d'une couleur blanche, légèrement rose cassée, comme celle-ci. Il ne doit pas être vert ou de toute autre couleur. Le bœuf, comme ce steak, devrait être d'une couleur rouge foncée. Encore une fois, aucune décoloration. S'il y a une décoloration comme le gris, c'est à ce moment-là que vous devez le sentir et vous assurer qu'il n'a pas d'odeur forte. Même chose avec le mouton, une couleur rouge foncée, sans décoloration et sans odeur forte. Pour les poissons, pour les saumons comme celui-ci, vous recherchez une couleur rose-orange, pas de vert ni de gris. Il ne devrait pas avoir de forte odeur de poisson, il devrait plutôt avoir une odeur d'océan. La température de cuisson normale du poulet, pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait causer une intoxication alimentaire, doit être d'au moins 75 degrés Celsius. Pour le bœuf, 63 degrés Celsius et pareil avec la côtelette de mouton. Pour le poisson, la température de cuisson est d'au moins 63 degrés Celsius pour vous assurer de vous débarrasser des bactéries qui peuvent vous rendre malade.
C'est ici que s'achève le magazine Votre Santé, Votre Avenir. La première partie de ce programme hebdomadaire s'articulait autour de l'importance de l'activité physique sur la santé. Nous nous sommes entretenus avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France. Ensuite, nous vous avons proposé Carnet de santé présenté par Léon Moubou. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 5.